Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mise en examen des quatre policiers qui ont passé à tabac à Michel Zecler la semaine dernière. Une agression dont l'enregistrement par des caméras de vidéosurveillance a permis de prouver l'implication des forces de l'ordre. Quatre mises en examen donc et deux détentions provisoires. Alors que Gérald Darmanin doit s'expliquer ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée sur les conditions de l'usage de la force par les autorités ces derniers jours. Un ministre de l'Intérieur qui ne fait plus l'unanimité dans son camp, nous le verrons.
L'ouverture de certains commerces ce samedi a permis aux commerçants de retrouver des couleurs. Nous ferons le point sur le secteur de l'habillement et également sur celui de l'immobilier.
L'actualité à l'étranger, ce sont les élections municipales brésiliennes qui signent la défaite des troupes de Jair Bolsonaro, mais aussi celle de la gauche brésilienne.
Pas de nouvelles en Algérie du nouveau président hospitalisé en Allemagne, Anne-Laure.
Oui, il ne donne plus signe de vie. Enfin, nous pencherons sur une nouvelle action judiciaire climatique lancée par 6 plaignants portugais contre 33 pays européens. L'information est tombée dans la nuit. Les quatre policiers, principaux auteurs du passage à tabac de Michel Zecler, producteur parisien violemment agressé dans son studio la semaine dernière, ont tous les quatre été mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Deux d'entre eux sont écroués, les autres placés sous contrôle judiciaire. Cette agression, filmée intégralement par des caméras de vidéosurveillance, avait remis de l'huile sur le feu de la polémique concernant la loi de sécurité globale, votée il y a quelques jours par le Parlement. Est très vivement contesté par plusieurs associations et syndicats de journalistes, qui défilaient d'ailleurs à nouveau samedi dans la rue. Dans cette affaire, en effet, les caméras ont permis d'invalider la déclaration des policiers et même leur procès-verbal, qualifié par le procureur de faux en écriture publique, une agression qui a en outre choqué l'opinion publique. Pour David Lebars, secrétaire général du SNCP, le syndicat des commissaires de la police nationale, c'est désormais à la justice de prendre en charge cette affaire.
Les faits énoncés et retenus par la justice sont des faits graves. Voilà, ce sont des faits de violence aggravée en raison de la qualité de ceux qui sont mis en cause, policiers. Il y a également du faux qui est retenu. Il y a la violation de domicile. J'ai entendu aussi que les insultes à caractère raciste étaient retenues. Donc tout ça, ce sont des faits graves. Et c'est maintenant un juge d'instruction qui va entendre ces policiers qui vont pouvoir, j'espère, se défendre. Mais en tout état de cause, ils vont devoir rendre des comptes à la justice. Et c'est ce qu'une société apaisée doit attendre et ne pas laisser les gens juger sur la place publique. C'est à la justice d'agir et on va assister à la justice de notre pays par rapport à des faits qui ont choqué l'opinion.
Mais cette agression, évidemment, a pris un tour politique. Elle vient remettre en cause la pertinence de l'article 24 de la loi de sécurité globale, celui qui limite le droit de filmer les forces de l'ordre. Hier à Matignon, les cadres de La République En Marche, qui ont, dans leur grande majorité, voté ce texte, ont demandé à Jean Castex de finalement bien vouloir faire bouger les lignes. Une réunion à laquelle n'était pas convié le principal promoteur de la loi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'aurait mal pris selon son entourage. Le même Gérald Darmanin sera entendu ce soir par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force lors de différents événements survenus à Paris depuis la manifestation du 17 novembre 2020. Un rendez-vous sous haute tension politique. Rosalie Lafarge, car le locataire de la place Beauvau ne fait plus l'unanimité dans son camp.
Les questions qui fâchent ne viendront pas que des oppositions ce soir. Les marcheurs n'ont pour certains plus peur de dire qu'il y a un problème Darmanin, un peu trop sarkozyste dans les mots et l'attitude pour une partie de la Macronie. Le politologue Pascal Perrineau confirme.
Il joue sa partition, celle pour laquelle en effet Emmanuel Macron et Jean Castex ont été le chercher. Simplement, il le fait avec un style tonitruant, qui dérange jusqu'au cœur de la majorité et qui dérange, on le voit, le Premier ministre a été mis en difficulté par son ministre de l'Intérieur. Ça tourne un peu parfois à la cacophonie.
Jean Castex obligé de reculer en fin de semaine sous la pression des présidents de l'Assemblée et du Sénat sur cette idée de commission indépendante chargée de réécrire l'article 24 de la loi sécurité globale. Gérald Darmanin est-il pour autant menacé? Pas franchement, reconnaît Pascal Perrineau.
Dans le dispositif de la majorité actuelle, Darmanin joue un rôle. Il incarne ce qui est très sensible depuis plus d'un an, c'est-à-dire une forme de droitisation du dispositif de la Macronie politique, où il s'agit d'envoyer toute une série d'éléments de langage, de thèmes et éventuellement de mesures sur le terrain de l'immigration, sur le terrain de l'insécurité, sur le terrain du terrorisme, qui parle à un électorat de droite qui aujourd'hui est un élément du dispositif de soutien électoral à Emmanuel Macron.
Mais à trop vouloir séduire à droite, le risque est évidemment de perdre, si ce n'est pas déjà fait, le socle de 2017, largement établi au centre-gauche.
Rosalie Lafarge, un déficit vertigineux, celui du budget de la sécurité sociale, que s'apprêtent à acter les députés aujourd'hui. Ils doivent valider le budget 2021 d'une sécu qui a dû absorber les surcoûts liés à la pandémie, les mesures du Ségur de la santé et certainement à venir les baisses de cotisations liées au chômage. Sur fond de couvre-feu et de reconfinement, les chiffres ont été plusieurs fois revus à la hausse au cours des séances parlementaires. Ainsi, le déficit pour 2020 passe de 46,6 à 49 milliards d'euros. Les prévisions pour 2021 sont tout aussi mauvaises, avec un déficit revu à 35,8 milliards d'euros. En attendant, une première phase de déconfinement a donc été entreprise samedi, avec la réouverture de plusieurs commerces non essentiels, coiffeurs, librairies ou encore magasins de jouets, à moins d'un mois de Noël, une période qui habituellement constitue une grosse partie du chiffre d'affaires de ce type de commerce. Concernant le secteur de l'habillement, un premier bilan tiré s'avère plutôt positif, malgré des manifestations dans plusieurs centres-villes. Écoutez Éric Mertz, président de la Fédération nationale de l'habillement. Il est interrogé par Laura Dulieu.
Dans ce contexte un peu particulier, où la fréquentation a quand même été assez faible, on a quand même eu des clients qui étaient bien fidèles au rendez-vous. Donc on a eu une très bonne tenue du prêt-à-porter enfant, des ventes peut-être un petit peu plus tendues sur les autres secteurs d'activité, mais avec toutefois un panier moyen qui était assez conséquent. Donc un chiffre d'affaires finalement sensiblement étendu qu'à l'année dernière, à date comparable. Néanmoins, je noterai quand même aussi, dans les éléments un peu plus discutables, l'incompréhension bien réelle des consommateurs sur le décalage du Black Friday du 27 novembre au 4 décembre. L'autre sujet d'incompréhension concerne les villes en zone touristique. C'est une situation qui est très critique pour les commerçants implantés dans les villes côtières, les villes de montagne bien sûr, et tout particulièrement les stations de ski, qui jouent leur saison sur 4 mois, alors que la période de Noël représente jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires en temps normal. Donc il est extrêmement urgent que là, l'État apporte une indemnité de compensation au préjudice, parce que de toute façon, sinon, il y aura vraiment de très, 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 très gros problèmes. L'enjeu majeur est à présent, quelque part, la réussite de ce second déconfinement. Ça signifie quand même qu'il faut qu'on agisse ensemble en responsabilité sanitaire. On a peu de visibilité, on reste quand même très confiant et franchement, on était extrêmement contents de réouvrir et on attend bien sûr tous nos clients encore pendant tout le mois de décembre.
Autre activité et marqueur traditionnel d'une certaine bonne santé économique, l'immobilier. Les visites de biens sont réautorisées depuis plusieurs semaines déjà. En avril, les agences et les banques avaient recensé une baisse très importante des demandes d'emprunt, près de 70%. Mais pour ce deuxième confinement, moins long que le premier, la demande est restée stable cette fois. En revanche, Arnaud Rozac, les profils des nouveaux acquéreurs sont différents.
Crise sanitaire oblige, certains acheteurs sont restés sur le carreau. Les restaurateurs, les saisonniers, en bref, tous les travailleurs qui font face à un chômage massif et à durée indéterminée. Pour eux, emprunter est quasiment devenu mission impossible. Actuellement, ce sont les jeunes avec une situation stable qui s'intéressent le plus à la propriété. Maëlle Bernier est porte-parole de l'agence MeilleurTaux.com, experte en prêt immobilier.
Les dépenses habituelles, type voyage, type beaucoup de loisirs, peut-être, et qu'on peut comprendre à moins de 30 ans. Comme tout ça n'est pas possible et n'est plus possible, et on ne sait pas du tout quand ce sera le cas, vous avez des jeunes, encore une fois, pour ceux qui peuvent être financés, qui peuvent se dire, je vais peut-être acheter, parce que finalement, la pierre, c'est la valeur refuge absolue.
Acheter, oui, mais pas n'importe où. Ce sont les villes de taille moyenne comme Tours ou Le Mans qui attirent de plus en plus. Le nouvel acquéreur va y trouver de la verdure, un cadre de vie plus agréable et surtout des prix très intéressants. Marc Joly est agent immobilier à Dreux, dans l'Eure-et-Loir. Dans cette ville de 60 000 habitants, située à une heure seulement de la capitale, le prix du mètre carré est 6 fois moins cher qu'à Paris.
Pour le même prix, en fait, plutôt que d'acheter un bel appartement en région parisienne, ici, ils vont acheter vraiment une très belle maison. C'est beaucoup, beaucoup moins cher, tout en étant, en fait, qu'à une heure de Paris réellement. Aujourd'hui, la ville bouge, les transports s'améliorent, et puis leur travail leur permet aussi peut-être de faire un peu plus de télétravail, pour le coup, ce qui permet d'avoir de nouveaux acquéreurs qui aujourd'hui font le pas et puis viennent s'intéresser à une ville comme Dreux.
Preuve de cet engouement, il y a un an, une maison à Dreux restait en vente pendant 6 mois avant de trouver un acquéreur. À l'heure actuelle, c'est 3 fois plus rapide.
Arnaud Rozac.
8h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. Dans l'état du Borno, situé dans le nord-est du Nigeria, le bilan ne cesse de s'alourdir. Il concerne des dizaines de paysans tués alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, sans doute par des militants islamistes.
Oui, 110 seraient morts, dont plusieurs décapités. Selon Amnesty International, 10 femmes sont au nombre des personnes manquantes également. Aucune revendication pour l'instant, mais ce genre de massacre ressemble à ceux perpétrés par les groupes Boko Haram ou ISVAP, tous deux actifs dans la région. Depuis 10 ans, ces attaques terroristes ont fait 30 000 morts dans le pays. Cette dernière attaque est la plus violente de l'année contre des civils. Au Brésil, des élections municipales en forme de défaite pour le président Jair Bolsonaro à 2 ans de la présidentielle. Le centre droit sort grand vainqueur, notamment dans les deux plus grandes villes du pays. Des municipales qui signent un reflux apparent de la vague extrémiste qui avait porté Jair Bolsonaro au pouvoir en 2018. Autre grande perdante, la gauche brésilienne. Les précisions d'Anne Vigna.
Jair Bolsonaro n'a pas tweeté toute la journée de dimanche et n'a nullement commenté les résultats de l'élection municipale. Du reste, il ne s'était presque pas impliqué dans ce deuxième tour de ces élections, sachant la plupart de ses candidats ont très mauvaise position pour l'emporter. Le plus emblématique d'entre eux, le pasteur évangélique Marcelo Crivella, a été largement battu à Rio par l'ancien maire Eduardo Paes. À São Paulo, son candidat avait perdu dès le premier tour. La gauche, et notamment le Parti des travailleurs, font également de très mauvais scores. Pour le parti de Lula, c'est la première fois depuis la fin de la dictature militaire en 1985 qu'il n'emporte aucune grande ville. Malgré les aides financières octroyées aux femmes et aux Noirs, très peu ont été élus. Les maires seront encore pour 4 ans, en très grande majorité, des hommes blancs et âgés. C'est la droite et le centre qui apparaissent comme les grands vainqueurs de cette élection. Des partis qui s'étaient alliés à Bolsonaro il y a 2 ans pour la présidentielle, mais qui sont désormais considérés comme les ennemis du président. Et dont la renaissance ne peut qu'inquiéter Jair Bolsonaro.
Anne Vigna, l'Algérie est sans président depuis plus d'un mois. Abdelmadjid Tebboune, 75 ans, n'est en effet pas réapparu après son transfert le 28 octobre dernier dans un hôpital allemand après avoir contracté le coronavirus. Depuis, à part quelques communiqués succincts, c'est le silence radio de la part des autorités algériennes. Un silence qui rappelle de mauvais souvenirs. Valérie Crova.
Pour les Algériens, l'histoire se répète. L'absence prolongée d'Abdelmadjid Tebboune rappelle la situation vécue quelques années plus tôt quand l'ancien président Bouteflika, victime d'un AVC, a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'étranger.
Ce qui se passe là est très grave. Donc, c'est autant, encore une fois, que nous sommes revenus à la case de départ avec l'absence de Bouteflika, qui a été sur une chaise roulante plus de 7 ans.
L'opacité qui entoure l'état de santé du président actuel alimente toutes les rumeurs. Et les Algériens de s'interroger sur la vacance du pouvoir comme cet enseignant de 38 ans.
Il y a vraiment des vraies craintes réelles de la part de tout le monde sur ce vide constitutionnel. On espère bien qu'on ne va pas retomber dans le scénario de Bouteflika et qu'il y aurait plus de clarté de la maladie du président.
Pour éviter une crise à la tête de l'État, des voix de demande l'application de l'article 102 de la loi fondamentale algérienne. Il prévoit qu'au bout de 45 jours d'empêchement du président, soit d'ici la première quinzaine de décembre pour Abdelmadjid Tebboune, la vacance du pouvoir est constatée par le Conseil constitutionnel. Ce serait alors le président du Sénat, âgé de 89 ans, qui assurerait l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau chef d'État.
Une nouvelle action en justice climatique. Elle est initiée par 6 Portugais et devrait être jugée recevable aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils portent plainte contre 33 États, dont la France, pour n'avoir pas respecté leurs engagements climatiques. Une nouvelle plainte qui témoigne de la prise de conscience par les tribunaux de l'urgence climatique, mais aussi du fait que ce genre de contentieux est en train de se développer dans le monde. Véronique Reberotte.
Les plaignants, 4 enfants et 2 jeunes adultes de nationalité portugaise âgés de 8 à 21 ans, tiennent pour responsables 33 pays, tous ceux de l'Union européenne, mais aussi la Norvège, la Suisse, la Russie, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Ukraine, tous responsables de l'aggravation de la crise climatique. Ils estiment que ces pays ont échoué à faire leur part afin d'éviter une catastrophe climatique qui compromet l'avenir des générations présentes. La Cour européenne des droits de l'homme devrait annoncer qu'elle accorde la priorité à cette affaire en raison de l'importance et l'urgence des questions soulevées en violation de son article 3. L'article 3 stipule « Nul ne doit être soumis à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». On peut en déduire que la Cour estime que les effets du changement climatique sur les jeunes portugais sont si graves que leur droit, selon cet article, est potentiellement violé. Les jeunes plaignants témoignent tous de leur difficulté à vivre, à respirer, dans un pays soumis chaque année à des records de chaleur et de graves incendies. Si la procédure aboutit, les pays seront légalement tenus de revoir leur plan climatique, d'accélérer leurs actions climatiques et celles aussi de leurs multinationales.
On termine par un mot du ciel. Il fera gris et froid sur toute une partie nord du pays où les températures sont au-dessous de zéro ce matin. Sur les plaines du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le ciel va rester encombré. Ailleurs au sud, temps ensoleillé cet après-midi. Les températures plafonneront entre 3 et 7 degrés du quart nord-est au centre-est. Comptez de 7 à 12 degrés en général sur le reste du pays, de 13 à 15 sur les Pyrénées et près de la Méditerranée, Guillaume.
Eh bien, merci Anne-Laure Chouin, 8h15 sur France Culture dans 30 minutes. Mes camarades Hervé Gardette, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte, on va évoquer le procès de Nicolas Sarkozy. Nous sommes en compagnie du journaliste à Mediapart Fabrice Arfi et il sera rejoint dans quelques instants par l'historien et professeur à l'Université d'Orléans Jean Garrigue et puis un billet politique avec vous Frédéric Saïs. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
L'exécutif cherche une porte de sortie après la mobilisation de ce week-end contre la loi de sécurité globale.